Bonjour, la Banque Nationale Suisse passe à l'action pour tenter de contenir l'envolée du franc suisse. La BNS a notamment décidé dès ce matin de rétrécir avec effet immédiat la marge de fluctuation du Libor à 3 mois. Nous entendrons les explications de Fabrice Godiano et la réaction de Bernard Lambert, chef économiste à la Banque Pictet, qui y voit un premier pas intéressant mais insuffisant. C'est un procès historique pour l'Égypte et le monde arabe qui s'est ouvert ce matin au Caire. L'ancien président Hosni Moubarak, 83 ans, s'est présenté sur une civière devant le tribunal qui doit le juger pour meurtre de manifestants et corruption. Nous entendrons le récit de notre correspondant sur place, Alexandre Bouchianti, et l'analyse de l'historien Pierre Vermeuren. Le piano est à l'honneur jusqu'au 11 août à Saint-Ursanne. Le cloître de la collégiale accueille cette année encore les plus grands interprètes dans un lieu magique. Le pianiste français Pierre-Laurent Boucharla jouera Schubert, Brahms, Chopin et Beethoven ce soir. Il sera notre invité en direct à la fin de ce journal. Météo mitigée cet après-midi avec alternance d'averses, d'éclaircies et de coups de tonnerre. Le mercure affichera 25 à 27 degrés en pleine. Retour d'un temps généralement sec et ensoleillé demain, mais le ciel restera couvert en montagne avec encore quelques gouttes ici ou là. Une nouvelle perturbation est attendue vendredi, nous dira Stéphanie Koller. La Banque Nationale Suisse a donc pris ce matin une série de mesures pour stopper l'envolée du franc suisse. La BNS estime que la devise helvétique est extrêmement surévaluée et qu'il existe également un risque de dégradation de la stabilité des prix. Fabrice Godiano.
Alors d'abord, le gendarme monétaire suisse ramène la fourchette des taux d'intérêt sur 3 mois, le Libor le plus proche possible de zéro, donc une mesure ferme adressée aux marchés qui spéculent sur le franc suisse et qui devrait entraîner une baisse des taux hypothécaires. Reste à vérifier si elle aura l'effet escompté sur la durée, car les taux sont déjà pratiquement au plancher et la crise de la dette européenne n'est de loin pas résolue.
Et pour les autres mesures, Fabrice ?
Eh bien, pour essayer de faire simple, l'arsenal mis en place par la BNS débouche essentiellement sur un gonflement de la masse monétaire, donc plus d'argent en circulation. Ainsi, l'Institut d'émission a annoncé vouloir augmenter substantiellement les liquidités sur le marché monétaire en francs, donc plus d'argent en circulation, ce qui devrait rendre la devise helvétique moins rare et donc moins chère. Par ailleurs, la Banque centrale veut pratiquement tripler les avoirs que les banques privées détiennent auprès d'elle, de 30 à 80 milliards. En clair, cela signifie qu'elle cesse sa politique de résorption de liquidités et que les banques ne pourront plus placer cet argent en obligation, on va dire pépère, de la Confédération. Traduction, avec des taux à zéro, cela va pousser les banques à prêter pour faire travailler l'argent et donc augmenter encore l'argent en circulation, ce qui devrait faire perdre au franc suisse un peu de son attrait.
Et l'annonce de ces mesures ont déjà produit un effet.
Eh bien, pour l'heure, cette intervention clairement inflationniste a fait repasser la bourse suisse en territoire positif et sur le marché d'échange, actuellement, 1 euro vaut 1 franc 11 et 1 dollar s'échange à 77 centimes, donc une légère embellie. À noter encore que la BNS a promis de prendre d'autres mesures contre la fermeté du franc si la situation l'exige, à savoir si ces mesures n'ont pas l'effet escompté et si les risques de déflation, c'est-à-dire une baisse continue et non maîtrisable des prix, eh bien, si ces risques-là s'accentue.
Fabrice Godiano, chef de notre rubrique économique. Nous avons joint tout à l'heure Bernard Lambert, chef économiste auprès de la banque Pictet. Avec cette première question, que vous inspirent les mesures annoncées ce matin par la BNS ?
C'est des mesures qui vont dans la bonne direction face à ce franc suisse qui n'arrête pas de monter. Donc la BNS, après une période un peu silencieuse, a pris des mesures. Et puis ce qui me frappe, c'est quand même le ton qui est assez ferme.
Ce sont des mesures qui peuvent avoir des effets à long terme ou c'est uniquement, on va dire, de la première urgence ?
On espère qu'ils auront de l'effet à long terme, mais rien n'est moins sûr malheureusement. Et c'est vrai que c'est de la première urgence, c'est un premier volet de mesures. Malheureusement, je crois que tout ça dépend beaucoup de ce qui se passe en Europe. Et comme en ce moment, on a une intensification de la crise souveraine européenne, ce sera malheureusement la clé pour le franc suisse aussi.
Vous estimez que c'est pas suffisant ?
C'est suffisant si les choses se calment en Europe, mais rien n'est moins sûr. Et effectivement, je pense que si la crise européenne gagne encore en intensité ces prochains jours, ça s'avérera assez vite insuffisant.
La bourse en tout cas a déjà réagi, le SMI est bien remonté ce matin, le franc suisse semble un peu moins costaud. Cette tendance, elle va se maintenir à votre avis ?
Le franc suisse a bien corrigé, mais d'un autre côté, il est revenu au niveau de lundi, hein, donc c'est pas non plus revenir beaucoup en arrière. L'effet, il est là maintenant, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas certain que ça durera très longtemps.
Les banques vont en tout cas se retrouver avec pas mal de liquidités supplémentaires, Bernard Lambert. Qu'est-ce qu'elles vont en faire ?
Oui, je crois que de toute façon, ces liquidités, cette base de liquidités, elle l'avait déjà auparavant. Donc je ne crois pas que ça va changer grand-chose dans la croissance du crédit offert par les banques, qui était déjà d'ailleurs forte, en tout cas au niveau hypothécaire. Alors bon, il y a une petite baisse des taux d'intérêt, mais disons, c'est pas énorme.
Justement, les taux hypothécaires sont déjà bas. Ils vont continuer de baisser avec de telles mesures ?
Je crois que ce qui est important pour les taux hypothécaires, c'est surtout les taux à long terme, hein, donc pas les taux à court terme qui ont été ramenés à la baisse par la BNS aujourd'hui. Les taux à long terme sont en baisse, comme partout dans le monde développé, en Suisse comme ailleurs, donc, et ça devrait faire baisser les taux hypothécaires, mais c'est plutôt le ralentissement ou les craintes de ralentissement qui font baisser les taux longs plutôt que l'action de la BNS.
On a beaucoup reproché à la BNS son intervention restée vaine l'an dernier sur le marché des changes. Là, on l'accusait de ne rien faire finalement. C'est quand même un bon point, selon vous, aujourd'hui, de la Banque nationale suisse.
Oui, mais je crois qu'il faut pas perdre de vue que la situation économique était très bonne jusqu'à récemment en Suisse, et c'est pour ça que la BNS était un peu empruntée pour intervenir, parce qu'elle faisait face à un dilemme dans la mesure où elle n'avait pas de raison de vouloir soutenir cette économie à un moment où elle était encore forte. Maintenant, les choses sont un peu plus claires. D'abord, le franc suisse est encore beaucoup monté depuis, et puis là, on a vraiment une menace de ralentissement marqué, et donc la BNS a choisi d'agir.
Bernard Lambert, chef économiste auprès de la banque Pictet, invité par Fabrice Godiano. Et en parlant de Francfort, l'organisation Travail Suisse, épaulée par les syndicats SINA, Transfert, Hôtel et Gastro Union, a revendiqué ce matin des hausses de salaires comprises entre 1,5 et 3% en 2012, malgré la flambée de la devise helvétique. Ils estiment que la très forte productivité de ces dernières années et les perspectives de croissance positive pour l'an prochain doivent permettre aux employés d'être récompensés. Christian Favre.
Oui, le message est clair. Pas question pour les employés de payer les frais de la mauvaise conjoncture monétaire. Depuis 5 ans, le PIB a augmenté de 15%. Les salaires, eux, ont stagné à plus 0,3%. Il faut donc rétablir un équilibre. Et puis, Travail Suisse rappelle que seules les entreprises exportatrices sont touchées par la force du franc. Celles qui sont actives sur le marché intérieur tournent à plein régime. La croissance est constante depuis 2 ans. Attention donc à garder la tête froide. C'est l'avertissement d'Arnaud Kerst, vice-président du syndicat.
Dans le bâtiment ou dans le commerce de détail, dans la santé, on n'a pas un problème avec l'euro. Et là, ils travaillent très très fort et là, on va augmenter les salaires. Dans l'industrie de l'exportation, on a des problèmes, mais aussi là, on doit vraiment différencier de chaque branche.
En d'autres termes, à la veille de l'automne et des négociations salariales à venir, les syndicats restent vigilants, en particulier pour éviter que des entreprises profitent de la situation pour tirer les rémunérations vers le bas. Suzanne Blank, responsable de la politique économique de Travail Suisse.
On va se battre contre ça parce qu'on sait aussi que les prix d'importation ont aussi baissé et puis ça soulage aussi pas mal d'entreprises.
SINA, Travail Suisse, Hôtel et Gastro Union, Transfert, tous restent malgré tout ouverts à des augmentations de travail sans compensation, notamment pour les entreprises touchées de plein fouet par la crise du Francfort. Mais il faut veiller à ne pas casser l'attractivité d'un secteur, comme le souligne Éric Dubuis, secrétaire roman d'Hôtel et Gastro Union.
Écoutez, oui, bien sûr, on doit y être attentif, mais pendant des années, l'hôtellerie a été considérée comme une branche à bas salaire, avec des conditions de travail difficiles. Et je crois que maintenant, enfin, on a une cohésion, il y a des perspectives de formation, et on peut y faire carrière en étant payé correctement. Et ça, c'est des signaux qui sont très importants, notamment auprès des jeunes, qu'on souhaite attirer encore dans nos métiers.
Des revendications salariales qui oscillent donc entre 2 et 3% d'augmentation dans la construction, 2% dans l'industrie et jusqu'à 2,5% dans le secteur public. Enfin, notons que Travail Suisse salue l'intervention de la BNS ce matin pour tenter de contrer l'appréciation constante du franc.
Christian Favre en direct de nos studios du Palais Fédéral à Berne. 1 million de personnes se blessent chaque année en Suisse dans des accidents non professionnels qui causent la mort de presque 2000 personnes et qui engendrent des coûts de l'ordre de 12 milliards de francs. C'est ce qui ressort de la dernière étude du Bureau de prévention des accidents publiée ce matin. Des chiffres qui évoluent peu d'une année sur l'autre. La chute reste la première cause d'accidents dans l'habitat et les loisirs. Première apparition publique ce matin du président égyptien déchu Hosni Moubarak depuis sa démission le 11 février dernier. L'ancien chef de l'État est arrivé sur une civière à l'ouverture de son procès pour meurtre de manifestants et corruption. Il était accompagné sur le banc des accusés par ses fils Ala et Gamal, l'ex-ministre de l'Intérieur et si haut responsable de la police. Notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchianti, était devant la salle d'audience. Écoutez.
C'est une matinée historique, c'est la première fois de l'histoire. Un pharaon est jugé, et puis Hosni Moubarak, au cours des deux dernières années, il n'a jamais été populaire, mais au cours des deux dernières années, il est devenu franchement impopulaire. Donc pour eux, même pour ceux qui n'ont pas de compte direct à régler avec lui, c'est quand même un grand moment, parce qu'il le rend responsable de l'état exécrable de l'économie égyptienne, du chômage des jeunes, et en quelque sorte de tous les problèmes de la vie quotidienne. Donc le fait qu'il soit jugé, c'est en quelque sorte pour eux l'espoir de lendemain meilleur. Dans la salle d'audience, on a fait une sorte de séparation entre les familles des victimes et les proches des accusés, une sorte de barrière grillagée. Et à l'extérieur, il a fallu faire intervenir pratiquement 1 millier de membres des brigades anti-émeutes pour séparer les pro et anti-Moubarak. Il ne faut pas oublier que tout ce procès et sous haute surveillance, puisque autour de cette salle de tribunal, de cette académie de police, il y a plus de 6000 policiers et militaires, sans compter des dizaines de blindés.
Et à noter que les accusés viennent sans surprise de plaider non coupable à l'audience qui se déroule donc en ce moment au Caire. Nous sommes en ligne avec Pierre Vermeren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des sociétés arabes. Peu de monde croyait à la présence d'Hosni Moubarak à son procès. Vous diriez que le fait qu'il soit là ce matin, c'est avant tout pour satisfaire la demande populaire.
Oui, c'est une évidence, parce que si vous voulez, on va rentrer à l'automne dans un processus électoral. Et on a vu que les manifestations sur la place Tahrir au Caire avaient repris au mois de juillet, elles avaient duré 3 semaines jusqu'à ce que la police les interrompe brutalement. Et donc il fallait donner des compensations à cette foule, il fallait lui donner une bonne raison d'arrêter de manifester, et surtout une espérance, parce que ça paraît, comme le disait Bouchianti à l'instant, ça paraissait tout à fait incroyable que le chef d'un État arabe soit jugé, et en plus Hosni Moubarak, qui n'est pas un tyran, qui certes était à la tête d'un système très corrompu et autoritaire évidemment, mais qui n'était pas sur le modèle syrien ou de kadhafien, si je puis dire.
Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès?
Écoutez, il y a une dimension intérieure et il y a une dimension internationale. La dimension intérieure, c'est qu'il faut montrer aux Égyptiens que la révolution, c'est un processus bien réel, que même si les militaires et le haut commandement de l'armée a gardé le contrôle de la situation et assure actuellement la transition, eh bien les choses ont définitivement changé. Ça, c'est le premier point. Et ça fera évidemment beaucoup de joie à la population, mais surtout, ça va calmer la contestation potentielle et permettre de préparer mieux les élections. Et puis, au plan international, ça a une très grande importance, parce qu'encore une fois, à part Saddam Hussein, c'est le premier chef d'État du monde arabe qui va être jugé, par en plus son peuple, au terme d'une révolution populaire interne, endogène. Et là, c'est évidemment un énorme signal qu'a envoyé, peut-être pas, je dirais, à Kadhafi ou à Bachar el-Assad, qui se sont déjà grillés par leur politique ultra-violente, mais en tout cas aux autres chefs d'État de la région qui seraient bien informés de se tenir au courant, bien sûr.
Hosni Moubarak, on le sait, risque la peine de mort. Vous pensez que la justice est capable d'aller jusqu'au bout, de le condamner à la peine capitale ?
Étant donné que c'est un vieillard et qu'il est malade, quel que soit le degré de maladie, au fond, on veut bien comprendre qu'il soit profondément déprimé après ce qui lui arrive, parce que c'était tellement inimaginable, et en plus son fils, il le voyait à la tête de l'État égyptien, donc, mais je pense que c'est peu probable. Bon, alors il va être condamné à une peine de prison, à des amendes certainement colossales peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ça sera une dimension symbolique, c'est le symbole qui compte. Parce que Moubarak, c'est pas non plus Saddam Hussein. En revanche, que ses fils qu'une personnalité très corrompue qui fait partie du procès, que le ministre de l'Intérieur soit condamné parce que ce sont des hommes plus jeunes, à peut-être à 10 ou 20 ans de prison, je ne sais pas. Là, ça aurait une grande portée aussi pour mettre un coup d'arrêt à cette corruption qui, comme le disait encore une fois Bucchianti, s'est opéré dans un pays de misérable, et si vraiment la fortune du clan Moubarak est estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, on comprend que la population égyptienne soit ulcérée et qu'elle attende finalement non pas une vengeance, mais un rétablissement minimum d'une certaine justice.
Merci beaucoup Pierre Vermeren d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal, historien spécialiste des sociétés arabes, invité par Nicolas Vultier. Bon après-midi à vous, merci.
Merci.
Et du Maghreb, on descend dans la corne de l'Afrique. Micheline Calmiré est au Kenya aujourd'hui pour prendre la mesure de la gravité de la situation humanitaire sur le terrain. Les réfugiés somaliens fuient la guerre civile et la sécheresse qui ravagent leur pays. Correspondante de RFI au Kenya, Stéphanie Braqueué les a suivis sur la route de l'exil. Écoutez.
Siad Ahmed a quitté Bourale avec des dizaines d'autres personnes. Ensemble, ils ont marché pendant 32 jours pour rejoindre Doblé, la ville frontalière entre la Somalie et le Kenya. En chemin, une femme s'est aperçue que son plus jeune enfant avait succombé à la fatigue et au manque de nourriture.
C'était pendant la nuit. Nous ne pouvions pas rester près du corps pour l'enterrer dignement, car il y a des lions et d'autres animaux sauvages qui rôdent. Du coup, on a juste mis un peu de sable pour recouvrir le corps. On a dû le laisser là et on a essayé d'attendre un véhicule sur le bord de la route.
Mais la douleur de cette femme a été plus forte que tout. Elle a tenu à rester près du cadavre de son enfant.
La mère ne voulait pas quitter son enfant mort. On a dû la forcer à monter dans une voiture.
Siad raconte les faits d'un ton presque détaché. Ici, la tolérance à la douleur humaine semble avoir repoussé ses limites. Selon les organisations humanitaires, la famine risque de s'étendre à tout le sud de la Somalie d'ici la fin du mois d'août. Et les récits comme celui-ci pourraient bien se multiplier dans les semaines à venir.
Retour en Suisse, en Valais, le village de Chandolin accueille jusqu'à dimanche le camp international des jeunesses socialistes suisses qui rassemble 3000 participants originaires d'une centaine de pays. Après la tuerie perpétrée en Norvège le 22 juillet dernier lors d'un rassemblement de jeunes sociodémocrates, la vigilance s'impose. Yves Terrani a demandé au chef information et prévention de la police cantonale valaisanne, Jean-Marie Bornet, si l'appui de la police fédérale avait été sollicité.
La sécurité à l'intérieur des cantons est gérée par les polices cantonales qui sont souveraines en matière de sécurité. Par contre, on est en relation effectivement avec la police fédérale qui, elle, a principalement la charge de faire cette appréciation de la menace et de transmettre les différents éléments aux corps cantonaux, lesquels doivent mettre en place leur dispositif. Et pour nous, donc, on a un dispositif adapté. Puis effectivement, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose.
La police cantonale valaisanne a les moyens d'assurer un brin de sécurité supplémentaire autour d'un rassemblement comme celui-ci ?
La police cantonale a absolument les moyens d'adapter les dispositifs. Donc on a nos patrouilles qui tournent 24 heures sur 24, lesquelles peuvent concentrer leurs efforts dans des régions par rapport à certains événements. Ensuite, chaque corps cantonal a aussi les moyens nécessaires en termes de groupes d'intervention, ce qui est important aussi. Donc il n'y a pas de souci quant à cette démarche-là. Et puis ce qui est aussi à relever, c'est que dans le cas d'Amok, donc ce genre d'attaque, les agents de la police cantonale ont tous été formés, ainsi que les municipaux, il y a déjà une année, voire deux ans, pour intervenir immédiatement, pour neutraliser au plus vite l'agresseur.
Jean-Marie Bornet interrogé par Yves Terrani.
Le 12-30, David Racana.
Le Japon vient de créer un organisme public chargé de verser des dizaines de milliards de francs d'indemnité aux victimes de l'accident nucléaire de Fukushima sur les 15 prochaines années. Accident qui a contraint 80 000 personnes à évacuer les environs de la centrale dans un rayon de 20 km en raison des fortes radiations enregistrées dans la zone, George Baumgartner.
Jusqu'ici, pratiquement aucune indemnité n'a été versée aux riverains de la centrale de Fukushima, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs de vaches qui ont tout perdu dans l'accident nucléaire. Certains, ne supportant pas des fermetures d'exploitation agricole, se sont suicidés. Depuis l'accident, le gouvernement et TEPCO, l'opérateur de la centrale, se livraient à une épreuve de force financière. Ni l'un ni l'autre ne voulait prendre à sa charge le coût énorme des indemnisations. Le gouvernement a fini par créer cet organisme semi-public pour éviter que TEPCO ne tombe en faillite. Ce fonds est créé au moment où des niveaux de radioactivité potentiellement mortels de 10 000 millisieverts par heure sont détectés dans une conduite de la centrale de Fukushima. Du combustible fondu en provenance du réacteur numéro 1 se serait répandu dans la conduite. Georges Angartner, Radio Suisse Romande, Tokyo.
En Indonésie, les institutions liées à l'ordre public sont à juste titre mal aimées des citoyens qui estiment que la justice et la police sont gangrénées par la corruption, les mauvais traitements et l'inefficacité. Résultat, les riches sont rarement inquiétés, même lorsqu'ils détournent des millions de dollars, alors que les petites gens sont confrontés à de très grosses punitions. Solène Honorine a suivi le cas d'un de ces Jean Valjean de la justice indonésienne dans la banlieue de Jakarta.
Derrière la porte de la prison de Panjog Rajek, Irwan, un jeune homme de 29 ans, qui en paraît 10 de moins, s'approche timidement. Il purge ici le dernier de ses 6 mois de prison, en compagnie de criminels endurcis, certains meurtriers condamnés à 20 ans de réclusion. La différence, c'est qu'Irwan, lui, n'a volé que 2 cartes mémoire d'ordinateur dans un café internet d'une valeur de 30 euros à peine. Antonius Badar suit le cas Irwan pour l'ONG d'aide judiciaire LBH Masyarakat. Il s'est rendu aujourd'hui chez Henry et Siti, les parents du jeune homme, pour être sûr qu'ils ont bien récupéré une copie du jugement de leur fils.
Il arrive que la Cour de justice ne communique pas ce document à la prison. Alors l'administration pénitentiaire ne sait pas combien de temps le prisonnier est censé purger sa peine. Si Irwan ne reçoit pas cette lettre, il risque de rester plus longtemps que nécessaire derrière les verrous.
Ce jour-là, raconte son père, Irwan, sous l'impulsion du moment, dérobe les 2 cartes mémoire dans un café internet où il tuait le temps en se demandant comment acheter un petit quelque chose pour sa jeune épouse, alors enceinte de 3 mois. Mais en criminel amateur, il revient sur les lieux pour chercher son téléphone portable qu'il avait oublié. Rizal, le propriétaire du café internet, l'amène au commissariat. Quelques heures plus tard, la famille d'Irwan le rembourse. Rizal retire sa plainte sans pour autant arrêter les roues de la justice.
Quand j'y pense maintenant, je regrette d'avoir appelé la police. Le crime, c'était un vol, mais le coupable s'est déjà excusé. Et moi, la victime, j'ai reçu une compensation pour le vol. C'est des facteurs qui auraient dû être pris en compte pour faire justice.
Le cas d'Irwan est loin d'être isolé, explique Badar.
It could be worse.
Ça aurait pu être pire. Notre code criminel dit que dans un cas de vol, la peine maximale va jusqu'à 7 ans de réclusion. Je craignais qu'il prenne plus d'un an de prison.
Les journaux regorgent de ces faits divers. Petit crime, lourde peine. Une vieille femme qui dérobe une queue de bœuf pour faire sa soupe. Un adolescent qui vole le haut-parleur de sa mosquée. Mais il déclenche rarement des mouvements de solidarité. Irwan, lui, devrait être relâché le 27 août, juste à temps, espère-t-il, pour être présent le jour de la naissance de son premier enfant, une petite fille. Solène Honorine, Radio Suisse Romande, d'époque.
Musique. Et cette étude de Chopin, c'est vous qui l'interprétez, Pierre-Laurent Bouchard-là, bonjour.
Bonjour Monsieur Racana.
Vous jouerez Schubert, Brahms, Chopin et Beethoven au Festival Piano Saint-Ursanne ce soir. On va dire un mot d'abord sur votre parcours. Vous avez donné votre premier concerto à l'âge de 13 ans, premier récital 2 ans plus tard. Vous avez commencé le piano très très tôt.
Oh, j'ai commencé à 6 ans, ce qui est un âge assez commun, mais on va dire les choses se sont bien passées et depuis l'âge de 15 ans, en effet, je mène une carrière qui marche bien, voilà.
3 disques à votre actif, dont un enregistrement en public des 24 études de Chopin. Vous jouerez ce soir sa 2e ballade en fa majeur. Qu'est-ce qui vous séduit dans son répertoire à lui ?
Bah écoutez, c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer des maîtres du piano qui m'ont donné l'amour de Chopin et une grande profondeur par rapport à son grand répertoire. C'était un immense pianiste et qui a laissé une trace, on va dire, profonde pour tout, je crois, chaque pianiste en fait. Et donc, c'est toujours avec un grand bonheur que je réinterprète du Chopin. Voilà.
Au menu de la prestation.
Et c'est vrai que ce disque d'Evan.
Oui, allez-y.
Ce disque des 24 études a été pour moi une certaine épreuve, puisque donner 24 études en concert, les 24 études, ce sont 24 Himalayas, on va dire, à gravir. Donc ce programme-là a été très très important dans ma carrière et il m'a ouvert énormément de portes. Voilà.
Et puis c'était un enregistrement en public, donc on le rappelle. Au menu de votre prestation de ce soir, les ballades de Brahms, écrites à la fin de sa vie, quand il avait la cinquantaine, et les dernières sonates de Schubert, composées peu avant sa mort. Ces œuvres de fin de carrière, entre guillemets, elles ont une saveur particulière pour vous?
Alors, il y a une œuvre de Brahms qui est en fin de carrière, écrite, c'est l'opus 118 numéro 3, la ballade opus 118 numéro 3. Par contre, les ballades opus 10 que je vais interpréter avant sont des œuvres de jeunesse. De même que, excusez-moi, mais la sonate de Schubert en la mineure, opus posthume D537, qui est en fait la toute première sonate que Schubert ait composée en intégrale. C'est-à-dire, très souvent, le compositeur composait des mouvements de sonate sans jamais aboutir la sonate dans son intégralité. Et là, c'est la toute première sonate qu'il a composée à peu près à l'âge de 20 ans et qui démontre une très très grande maturité et d'une tendresse très schubertienne. Le climat est très très intense et le couple Schubert-Brahms mélange vraiment très très bien pour cette première partie. C'est ce qui m'a motivé à mettre les ballades de Brahms à la suite de cette sonate de Schubert.
Vous vous produirez seul ce soir au Festival Piano Saint-Ursanne, mais vous avez aussi enregistré un disque avec la mezzo-soprano russe Elena Sommer, et vous jouez parfois à quatre mains ou en trio avec violon, violoncelle. Qu'est-ce que vous préférez finalement ?
Écoutez, chaque expérience musicale a ses temps forts. Bon, Elena Sommer est une grande artiste russe qui chante à Saint-Pétersbourg, que je connais depuis plusieurs années. Nous nous rencontrons régulièrement pour des programmes et c'est vrai que nous avons une complicité sur scène qui est, je pense, ressentie par le public. Après les autres prestations en trio, la musique de chambre est pour moi quelque chose de très important puisque je pense que fondamentalement, pour un pianiste, jouer toujours tout seul, c'est un petit peu s'enfermer sur lui-même. Donc, rester ouvert à toutes les possibilités de musique en trio, en quatuor, en accompagnement de chant, est une chose très très importante pour pouvoir progresser et continuer son parcours musical.
C'est difficile, même quand on est un pianiste comme ça, aussi talentueux que vous, d'arriver à mener une carrière dans ce métier-là.
Non, c'est une question d'organisation, c'est une question aussi de conception des choses. Il faut savoir ce qu'on veut lorsqu'on joue, qu'est-ce qu'on attend de sa prestation en public. Il est clair qu'on ne fera pas n'importe quoi, donc à partir de là, les choses sont importantes. Et dans le cadre de Saint-Ursanne, nous avons la chance d'avoir un cadre déjà idyllique, propice à la musique, avec un piano de qualité exceptionnelle, je l'ai testé ce matin. L'organisation est vraiment extraordinaire, et je dois dire que vous pouvez être fier en Suisse d'avoir un festival comme celui de Saint-Ursanne. Il n'y en a pas de partout. Donc je pense que c'est vraiment une grande chance pour moi d'être dans ce festival. Et je dois dire que j'avais déjà rencontré M. Baume, qui est l'organisateur, donc en 2007, puisque j'avais déjà joué. Et je crois que, je suis très très heureux de revenir aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal. Pierre-Laurent Bouchard-là, vous jouerez donc Schubert, Brahms, Chopin et Beethoven ce soir au Festival Piano Saint-Ursanne. Bon après-midi à vous et bon concert. Et on se quitte avec quelques notes de votre disque consacré aux études de Chopin, salué par la critique pour la justesse de son interprétation. Sera à vivre en direct ce soir du côté de Saint-Ursanne, au bord du Doubs. Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 1,1% à 5608 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Stéphanie Collère.
Le temps sera changeant cet après-midi avec de brèves éclaircies en plaine qui seront plus généreuses en Valais et des averses. Elles pourront parfois avoir un caractère orageux. En toute fin de journée, il y aura une accalmie et la nuit sera sèche. Il fera un maximum de 26 degrés. L'isotherme du 0 degré se situera vers 3900 mètres. En montagne, un vent du sud-ouest soufflera modérément. Il y aura des rafales à proximité des orages. Le temps sera assez ensoleillé en plaine demain. En montagne, il y aura de nombreux résidus nuageux le matin. Ils seront accompagnés des dernières averses. Ensuite, le ciel se découvrira et il y aura de belles éclaircies l'après-midi. Il fera un maximum de 27 degrés et le 0 degré se rapproche de 4000 mètres. Vendredi matin, le temps sera en partie ensoleillé, puis le ciel se couvrira et des averses, parfois orageuses, éclateront. Elles séviront surtout en montagne.
Infotrafic RSR.
Sur l'axe Lucerne-Chiasso, on compte 4 km de bouchons à l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin. Et sur l'axe Genève-Aoste, il faut patienter jusqu'à 1h30 au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Fin de ce journal. Demain, nous recevrons la présidente de l'association Marche Blanche, Christine Bussat, pour faire le point sur les avancées obtenues en matière de lutte contre la pédophilie. Excellent après-midi, il est 13h.